Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre motarde en or, Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, aujourd'hui tu as choisi notre célèbre Nicolas pour être le motard lecteur d'un livre qui s'intitule « Des hommes de tête ».
J'aurais aimé pouvoir choisir, non, j'ai eu la grande chance que Nicolas sache que ben oui, il y avait ce sache bouquin à présenter,
déjà, voilà, déjà lire, voilà.
Et puis se propose parce que Nico, ce que tu m'as dit, tu as adoré ce livre et tu avais envie de partager ta lecture, parce que finalement on le répète depuis qu'on a démarré cette rubrique, n'hésitez pas, vous avez un coup de cœur pour une lecture quelle qu'elle soit en rapport avec la moto bien sûr, et vous avez envie de la faire partager, et en fait, comme Nico, venez avec nous et puis ça sera que du bonheur pour tout le monde.
La suite de ce menu de cette émission, coup d'œil Patricia dans le rétro sur une marque à l'historique éloquent, Sarwalea, qui sera à l'honneur à la 32e bourse d'échange les 7 et 8 novembre prochains à Roselard.
Oui, parce qu'on sait faire les transitions à Kikaku, et lors de la lecture du bouquin, eh bien, on va enchaîner, grâce toujours à Nico, parce que c'est une encyclopédie vivante sur la moto, on va enchaîner sur Sarwalea.
Voilà, et on va continuer avec la moto ancienne, avec retour sur toute une année de compétition en championnat de vitesse de moto ancienne, avec peut-être un nouveau titre à recevoir au prochain Salon Moto Légende. Nous sommes en compagnie de...
Oui, Patrick Cassuto.
Bonjour.
Une gloire nationale,
oui,
puisque
oui.
Champion de France. Mais régionale aussi.
Voilà. Oui.
Voilà. Et puis la rencontre du mois, j'aurai avec un motoplayer aussi, c'est le MC Feu Follet d'Onin.
Voilà, alors le MC Feu Follet, on va faire l'émission avec eux, parce qu'on s'en inquiétait un petit peu, on se disait, est-ce qu'ils vont pouvoir nous rejoindre, parce qu'effectivement, ils se déplacent de chez eux pour nous présenter, participer, ils ont inauguré, je vais arrêter de bafouiller là, à nouveau, une rubrique, le motoclub du mois.
Très bien. Voilà. Et puis on va terminer avec, alors maintenant tout le monde le connaît, hein, maintenant ça devient une star ici dans la région, hein, c'est Luc Cotterelle. Bonjour Luc.
Salut.
Bonjour. ça va bien ?
Ça va.
T'es toujours en moto aujourd'hui ? T'es venu en
non,
moto ?
Non, je suis venu en voiture aujourd'hui. La moto est fatiguée, l'embrayage est mort.
Alors, c'est après 85 000 km en Afrique, hein, ouais. On peut comprendre que l'embrayage soit mort. Hein, on rappelle un petit peu aux auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas encore, hein, 2 ans et demi, l'Afrique d'Est en Ouest, 82 ou 87 000
km. 87 300
km. 300 km, ouais. des choses incroyables. Tu as vécu des choses incroyables.
Ouais, bah, c'est une aventure. Ouais, une aventure humaine avant tout, des rencontres et un vécu superbe.
Très bien. Et tu as décidé de réaliser un film documentaire.
Un film documentaire, oui. Pour l'instant, j'ai juste préparé une bande-annonce que j'ai mis sur un site de projet participatif pour financer le montage. Et oui, contrairement au blog qui est très factuel, j'ai l'intention de raconter un peu plus l'histoire du voyage du intérieur et du bonhomme.
C'est-à-dire que durant ces 2 ans et demi, tu as filmé, tu es revenu avec des tonnes d'images et
ouais,
de sons.
Énormément. Je suis revenu avec 34 000 photos, 150 heures de rush.
Incroyable. Ouais.
Bon, sachant que j'étais pas parti pour faire un film, donc au niveau qualitativement parlant, c'est pas. J'ai besoin justement d'un monteur pour rattraper le mauvais travail du caméraman.
Voilà.
Mais bon, il y a quelques belles images.
Voilà. Écoute, on reviendra un petit peu sur ce film, hein, parce que ça coûte de l'argent. Hein, et tu lances une souscription pour réaliser ce film.
Tout à fait.
Voilà, très
fait.
Bien. On va terminer ce sommaire, Patricia, avec notre. Je vous laisse présenter quand même.
N'ayez pas peur.
Notre Lolo légendaire.
Vous avez des questions à poser ? Non ? Alors c'est parti.
Thank you for rising.
in your sky. Herds of elk roam upon your meadows, and your eagle soars across my eyes. While you withstand the thoughtless plundering, Wolf Moon, keep on shining. Your days rolling by in timeless grace. Your heart just keeps on beating. Inside the beauty of this place, less fish swimming in your ocean. Old ice floating in your sea. Still you hold against the constant plundering. Wolf Moon.
Magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30, c'est sur Campus 106,6 ou www.campuslille.com. Avec aujourd'hui notre motarde en or, Patricia, on va commencer avec cette rubrique, le motard lecteur.
Oui, et puis un super bouquin à présenter, grâce à Nico.
Ah oui, donc ce bouquin c'est « Des hommes de tête », et c'est un jeu de mots en fait, on comprend à travers le roulement. Et c'est écrit par deux historiens, Richard Birkenfeld et Göran Eichmeister, donc des Allemands, hein, et ça se passe en Allemagne. D'ailleurs, pour me mettre dans l'ambiance, je vais lire la première page. C'est bien de lire la première page d'un bouquin pour se mettre dans l'ambiance. Munich, novembre 1923. Volk von Dronte coupa le moteur de sa motocyclette et jeta un coup d'œil de l'autre côté de la place vers le kiosque du Stachu. Il était en avance. Il frotta avec amour son gant sur le guidon du réservoir de la Victoria, jusqu'à ce que le chrome et lac étincellent de nouveau, et brillent de l'or tout leur éclat. Une moto, il faut s'en occuper avec soin. C'est la carte de visite du pilote, la partie tangible du succès. Elle raconte les exploits de son propriétaire. Quelques jours auparavant, il avait gagné sa première course. Certes, c'était pas une compétition officielle. Un pari plutôt, une course entre passionnés du sport motocycliste. Quoi qu'il en soit, gagner c'est gagner. Même s'il avait eu à empocher qu'un paquet de billets de l'inflation. Il avait eu du mal à fourrer le montant de sa prime dans sa sacoche, mais le lendemain, l'argent n'avait pas suffi pour acheter quelques grammes de beurre, ni même un quignon de pain. Putain de République.
Oui, il faut repasser dans le contexte, hein,
Exactement.
Nico. Parce que c'est un contexte particulier, celui de la République de Weimar, après la Première Guerre mondiale, l'effondrement de l'Allemagne. Et donc, oui, c'est tous ces détails, parce que c'est très très riche au niveau historique.
Voilà, donc c'est des historiens qui ont écrit, donc c'est très très bien documenté. Ils se sont appuyés pour faire la trame du roman sur le championnat d'Allemagne 1926. Donc là, on est en 1923, au début du bouquin. Donc, toute cette humiliation de l'Allemagne après la guerre est vachement bien transcrit. Et c'est vrai que... Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne avait des dommages de guerre énormes à payer à la France. Elle avait été humiliée et elle n'arrivait pas à payer parce qu'il y avait la crise économique. Donc les Français occupaient les usines allemandes dans la Ruhr. Et donc les ouvriers ont fait la grève du zèle. Ils n'allaient pas travailler pour des Français, ils étaient déjà humiliés comme ça. Et donc l'économie allemande s'est effondrée. Et il a fallu l'intervention des Américains pour réinjecter de l'argent dans l'économie et virer les Français avec leurs conneries pour que ça reparte. Et donc toute cette humiliation et cette revancharde après la guerre, elle est très très bien notée. Et c'est la misère. C'est la misère.
Oui, mais malgré ce contexte difficile qui va favoriser l'émergence du nazisme, pardon.
Oui.
La moto était reine.
Oui, elle est omniprésente.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, il y avait peu d'occasions de retrouver un honneur national. Et donc, tout ce qui pouvait, tout le sport en général, tout ce qui pouvait redorer un petit peu le blason était mis en avant. Et donc, là, la moto était en époque, c'était la naissance de la moto. Les premières motos, c'était tout début du siècle. Donc là, après la guerre, il y a eu un progrès qui avait été fait après la guerre. Justement, ça avait dynamisé un petit peu l'industrie. Et on se retrouvait avec des motos de plus en plus puissantes. On commence à voir les premières motos culbutées. Et donc, effectivement, on a ça. Et en plus, il y a un contexte international où, il ne faut pas oublier, c'était le communisme en URSS. Et puis le montée du nationalisme. Donc tout ce mélange-là, c'est un mélange hyper détonnant qui va déboucher sur la Seconde Guerre. Mais donc tout ça, on le sent bien monter à travers le roman. Et la trame, c'est ce championnat d'Allemagne 1926. Alors avec deux pilotes. Donc le premier, celui qu'on a découvert donc, à la lecture de la première page.
Donc,
c'est Falk von Drotte. Ouais, voilà. Donc il roule pour la firme Victoria, c'est une firme allemande. C'est un aristocrate, c'est un von Drotte. Et donc il défend des idées nationalistes, il est patrie, bonheur, honneur. Et il s'est plus ou moins fait enrôler dans un groupuscule militaire. Il sent bien que c'est pas trop son truc, mais il est un petit peu contraint à faire des choses pour eux, parce qu'ils savent des choses sur lui, donc il est un petit peu coincé. Et puis en alternance de chapitres, on a l'autre pilote. Donc c'est Arnaud Lamprecht. Alors lui, c'est l'inverse.
C'est
voilà, il est issu de la classe populaire. Il est plutôt largement communiste. Il est complètement détruit psychologiquement par la Première Guerre mondiale. Il a vu des atrocités, ça l'a détruit. Il se noie dans l'alcool, dans le jeu, les magouilles, les petites magouilles. Et puis la vitesse, c'est sa façon d'un petit peu s'étourdir. Et puis surtout, il en a besoin parce que lui, il doit gagner des courses pour vivre. S'il perd, il n'a pas de sous et il mange pas. Donc il y a tout ça. Et puis l'histoire, c'est un thriller assez complexe d'ailleurs. L'intrigue est assez complexe. Mais on va pas la dévoiler, mais c'est très très bien articulé à travers les courses. Et finalement, ces deux hommes que tout oppose vont devoir s'allier pour pouvoir un petit peu dénouer l'histoire. Mais c'est vrai que c'est très intéressant.
Oui, et puis c'est surtout très bien retranscrit les épreuves du championnat d'Allemagne. On a vraiment c'est vraiment vivant. Les descriptions
on a l'impression d'y
être. Très détaillées. Et toutes les machines qui sont citées
existent. Les pilotes qui sont autres que les deux protagonistes existent également. Les machines existent. Le championnat d'Allemagne, les circuits qui sont décrits existent.
Alors, le fameux Nürburgring de 60 km.
Alors non, attends, tu sais, à l'époque, les circuits, c'est des routes. Il y a encore des routes dans le meilleur des cas, parce que toutes les routes ne sont pas saletées, loin de là. Il y en a qui sont pavées, il y en a qui sont juste cendrées, il y en a où c'est carrément de la terre, empirée. Donc tout ça, on le découvre à travers ça. Et on découvre aussi l'immense succès populaire, parce qu'il y a un public énorme. Donc c'est la fête, c'est la kermesse, on vend des frites, des saucisses, des machins, il y a des montagnes de spectateurs. D'ailleurs, sur les photos anciennes, lorsqu'on regarde les courses de cette époque-là, on est toujours surpris par la montagne de personnes qu'il y a sur les talus. Ça avait un succès formidable. C'était nouveau, c'était étonnant, c'était spectaculaire, ça attirait tout le monde.
Et donc l'Embrèche, lui, c'est sur Sarolea.
Oui, voilà, donc c'est une moto belge, Sarolea, et donc ça, ce qui fait le lien effectivement voilà. avec Rulers, où c'est simplement cette année, c'est Sarolea.
On va pouvoir écouter un morceau de musique et puis après on enchaîne, si voilà. Tu veux bien.
Entendu.
C'est le magazine de la moto, c'est le dimanche de 11h à 12h30 sur campus avec aujourd'hui notre charmante Patricia, notre motarde en or.
Et le plaisir, effectivement, de pouvoir redonner la parole à Nico qui va nous parler d'une marque mythique, Sarolea. Sarolea qui va être à l'honneur de la 32e bourse d'échange écho, cyclo, scooter et moto qu'organise le club, le gros club de moto ancienne, le plus grand club de Belgique, hein, à Rossel. Vas-y Nico, dis-le, parce que moi je...
Bon, en français c'est Rulers, oui. En belge c'est Roselaire.
Roselaire, moi j'aime bien le belge. Et donc ça va se passer les 7 et 8 novembre, et il y aura donc plus ou moins 35 motos, hein, avec ce thème de mettre à l'honneur la marque, la Sarolea. Cette marque, tu vas nous en parler. Elle est revenue à l'actualité de manière récente, mais pas, ça ne va pas être trop à ton goût, Nico, parce que c'était une moto électrique qui ouais. a été donc testée sur le circuit
t'as
de Mété.
Chaque fois qu'il vient, t'as été à droite.
Voilà.
Harcelé. Ouais. Donc, mais Sarolea, ça a été toute une époque. Ça a démarré donc, au milieu du 19e siècle, Nico.
Ouais, je vais en dire deux mots. En fait, je veux juste revenir sur le bouquin qui s'appelle Les hommes de tête, qui est sorti en poche, hein, pour dire oui. qu'il est sorti en poche. Et puis, juste, j'ai oublié de dire une petite réplique, mais dans le bouquin, il y en a des tonnes. C'est beaucoup d'humour en même temps. Hein. Mais celle-là, j'ai bien aimé, donc je ressors. Donc, le gars commande une. Un truc dans une baraque à frites. Et donc, le texte, c'est ça. Il palpa la saucisse. Et la saucisse est froide et la bière est chaude comme de la pisse. Vous avez dû inverser ma commande. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc, oui, effectivement, donc, en Brecht, il.
On a les deux modèles. Alors, modèle de poche, et là, c'est le modèle.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais,
oui, le soir. Ouais.
C'est la même couverture.
Là, je suis la prolo avec mon édition à
7,60€. Parce que. Comment...
C'est écrit plus petit.
C'est plus petit, d'accord. Ouais.
Mais c'est plus accessible en prix.
Ouais, moi, je suis tombé dessus à la sortie. Et
ouais, toi, tu l'as lu dès voilà. qu'il est paru en librairie. Voilà.
Et le tien, il est plus adapté au presbyte.
Ce que je ne suis pas, à l'évidence.
Donc, Sarolea. Donc, c'est le surnom de Sarolea en Belgique, c'est la doyenne. Donc, ça veut dire que c'est une des plus vieilles marques belges. Et c'est amusant parce que il y a toujours un foyer dans chaque pays où géographiquement où c'est la moto a existé là. En Angleterre, c'est autour de Birmingham. Toutes les marques importantes se sont développées autour de cet endroit. En France, ce serait plutôt Dijon. Et en Belgique, c'est Herstal à côté de Liège. Parce que les principales marques belges, donc outre Sarolea, les marques les plus connues, c'est Gilet, à ne pas confondre avec René Gilet qui est française, Gilet d'Hertal, et FN, Fabrique Nationale, c'était donc
Il y en a eu quelques-unes, hein. Les Belges ont été très...
Prolifique
fabricant de motos.
Ouais. Et donc, ça a été fondé en... C'est vieux, hein, Sarolea, mais ça ne faisait pas des motos au départ. Ça faisait des armes, un petit peu comme BSA. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes avec BSA. Ils ont copié ou inspiré fortement de BSA toute leur gamme à chaque fois. Et donc, ils faisaient des armes à feu à l'époque, en 1850. Et puis, à la fin du 19e siècle, donc la moto au nez, et eux, ils faisaient des vélos. Et ils ont fait appel à... un ancien employé du constructeur d'Odion Bouton, donc un Français, hein, et un petit peu la première moto, quelque part, première moto à pétrole. Et il s'appelait Martin Fagar, cet ingénieur, et c'est lui qui a fabriqué les premières motos Sarolea. Et puis, ils ont fait de la compétition très vite, et elles étaient très très bien construites, et très fiable pour l'époque, et donc elles ont eu leur petite réputation rapidement, et elles se sont très bien vendues, et il y avait ils étaient notamment les premiers à faire une moto très puissante, un V-twin de 600 cm3, et le roi Léopold II à l'époque en a acheté une, ça fait beaucoup de...
C'était tôt, hein. C'était en 1905 qu'ils ont sorti...
Oui, un V-twin, ouais, c'était vraiment très, très en avance. Et ils ont fait ensuite des modèles plus abordables pour pouvoir faire une production plus large. Et ils avaient quand même une quinzaine de moteurs différents. C'est beaucoup pour l'époque, parce que beaucoup de constructeurs, en fait, utilisaient des moteurs existants qu'ils mettaient dans leur partie cycle. Mais eux avaient développé une quinzaine de moteurs différents. C'était déjà très important. Et donc, c'est la compétition qui était leur vitrine. Donc, c'est tout à fait le cas du livre, là. Et cette moto dont on parle dans le livre... En fait, c'est une des premières 500 culbutées qui était très performante. Par contre, la partie cycle, à l'époque, les routes étaient complètement déglinguées, mais il n'y a pas de suspension arrière. Donc, on s'occupait juste de suspendre la selle un petit peu. C'est vrai que c'était très difficile à conduire, à passer à la puissance, même si pour un 500 mono, ça faisait, je sais pas, 25 chevaux. C'était déjà énorme en culbuté, mais fallait la passer à la puissance à travers les pneus qu'il y avait à l'époque.
Et on parle pas des freins.
Et voilà, on parle pas des freins.
Pas besoin de freiner.
si tu freines, t'as un lâche.
Voilà.
Donc voilà, et bon, bah, ça c'était donc suite à la Première Guerre mondiale, parce que pendant à chaque fois que c'est la guerre, ils se sont fait envahir, l'armée belge qui prenait, enfin l'armée belge ou l'armée allemande qui allait servir, et l'usine s'est fait envahir à chaque fois. Et donc il y a eu une renaissance après la Seconde Guerre mondiale, et là ils avaient une gamme un petit peu utilitaire avec des moteurs à soupape latérale, 350, 500 et 600. Et puis la même chose avec des moteurs culbutés plus tourisme sportif. Et puis ils ont aussi produit donc ces motos-là en mono, c'était ce qu'on appelle des slopers. Donc les slopers, c'est des monocylindres longue course avec incliné vers l'avant. Donc c'est un look assez particulier, c'est sympa, hein, ça a de l'allure. Et bah d'ailleurs, il y en a un autour du monde. Si vous allez à Bolzel, dans le bistrot autour du monde, à l'intérieur du bistrot, il y a une Sarolea Sloper, un 600, donc avec ce moteur magnifique. Et puis, ils sortent après un petit peu sur la fin un bicylindre, puisque c'était la mode, un bicylindre parallèle, l'Atlantique, qui était un petit peu, qui ressemble d'abord en 500, puis après en 600, qui ressemble un petit peu au bicylindre de BSA. Et bah, ça provoquait la chute parce que ils ont eu du mal à le produire, ça coûtait cher à produire, c'était les années 50-55, c'était pas très porteur pour la moto, c'est le début de la voiture pour tous presque, la voiture se développe, et les prix étaient trop chers par rapport aux anglaises, trop chers par rapport à une voiture, et c'était le déclin de la marque. Alors ils se sont pliés sur des deux temps qu'ils n'avaient pas encore fait, dans les petites cylindrées, un petit peu comme ça que la France a tenu le coup avec les cyclomoteurs. Eux, ils avaient 125. Donc il y en a une qui s'appelait l'Oiseau Bleu, qui était bien connue, quoi. Et puis, Sarolea, ça va tenir le coup jusqu'en 74 avec l'armée, mais ils vont devoir fusionner avec leur concurrent Gillet, et puis ça va être un petit peu dilué et ça va disparaître. C'est une belle marque avec des belles motos. C'est probablement la marque belge qui a fait le plus de choix techniques importants et dont les modèles sont les plus beaux esthétiquement en plus.
Donc pour en avoir plein les yeux, il faut aller en Belgique à Roselaar.
À Roselaar ou à Roulers, ouais, voilà, voilà. Cette bourse.
Et puis rappelez que l'annonce est dans le calendrier.
Dans 15 jours,
vous l'avez à la page de novembre.
C'est samedi 7 dimanche.
Et 8.
Oui.
Samedi dimanche.
Ouais. Oui. Voilà. Donc, on vous invite à aller découvrir. Notre ami Guy aura l'occasion d'en reparler sans doute à l'heure de l'émission du 1er novembre, voire peut-être plus, peut-être à faire des cadeaux, on ne sait pas, au moins d'une interview avec le président du motoclub. Mais ça sera dans un grand espace, hein, près de 2000 m² d'expo. Et voilà, plus ouais. De détails à suivre.
Et donc les anciens locaux de Sarolea, ça existe encore, et ils en ont fait un lieu associatif dans lequel il y a un musée, donc on peut aller à Herstal, et il y a même un restaurant.
Bah, on ira faire une photo, Nico.
On ira faire un tour là-bas.
Parce que nous, on était à l'usine de Meriden qui n'existe plus, hein, ouais, voilà. Maintenant c'est un lotissement. Alors, voilà, voilà. Mais il y a quand même une petite stèle et un petit monument hein, qui rappelle qu'à cet endroit-là, les triomphes, les anciennes triomphes hein, étaient construites voilà. pendant près de 100 ans presque.
Mais tu as raison, Nico, ça va être une belle occasion de sortie.
Ouais, voilà.
Il va falloir qu'on la prépare.
Enfin, une balade.
Ouais.
Left me waiting by red light. I think about him every night. Roadrunner, Roadrunner. I wanted to keep him to myself. He put my heart up on a shelf. Roadrunner, Roadrunner. He's gonna ride. We'll
roadrunner. I'm gonna run. Settles, I ain't coming back.
Patricia, on reste toujours dans le milieu de la moto ancienne. On parlait de Saruelia avec Nick, notre ami Nico, célèbre Nico. Maintenant, on va parler toujours de moto ancienne. Mais alors, dans ce fameux championnat de vitesse de moto ancienne, parce qu'on a un pilote qui est deux fois champion du monde en moto ancienne. Il est à ma gauche.
Du monde de la France.
Voilà.
Du monde de la France.
Voilà. Du monde du nord de la France. Voilà. Alors, oui, la chose la plus juste, c'est qu'on reste toujours dans l'ancien avec Patrick.
Ouais, merci.
C'est bien sympa pour lui.
Et donc, effectivement, ça fait trois années consécutives que tu es engagé dans le championnat VMA.
Oui.
Traduisons vitesse moto ancienne.
Oui, c'est ça.
Et c'est la FFM qui préside à tout
qui
ça.
Qui chapeaute tout ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
Et donc, deuxième marche du podium, il y a...
La première année, oui.
La première année.
Avec mon 500 qui a tout cassé plusieurs fois.
Un mouvement ascensionnel, tu te retrouves sur la première marche. Et
ouais,
là,
avec un autre moteur.
Et là, tu retournes à Moto Légende pour normalement...
Peut-être.
Peut-être.
Ouais.
Peut-être.
Normalement, ça devrait le faire. Mais...
Donc, tu es toujours sur le podium, bref. Mais,
ouais, mais
comment s'est passée ton année de compétition?
Eh bien, cette année, je n'étais pas très assidu. Je me suis beaucoup dispersé. Et donc, j'ai fait que 5 courses en France sur le championnat de 10. Et puis après, je suis allé découvrir un peu les Anglais. Et puis, pas découvrir, mais retourner un peu mes premiers essais en Belgique. Donc, j'ai choisi les circuits qui m'intéressaient sur le plan du tracé et du cadre géographique sur Google.
Et puis, j'ai fait
ma saison de course avec ça.
T'es pas allé vers l'Espagne, au soleil?
Si, par le championnat de France. Ouais. On avait fait l'année dernière une course à Navarra. Et le circuit était très sympa, mais très bosselé. C'était une tôle ondulée. Et on a entendu dire qu'il l'avait refait, donc je voulais retourner pour rouler sur un circuit à peu près plan. Et c'était bien, un beau circuit. Et puis comme il est refait maintenant, ça roule. Quoi.
Donc des super occasions de rouler sur des super circuits aussi.
Ouais, ouais, des belles découvertes. Donc moi, en France, ma découverte cette année, c'était le circuit de Lédenon, où je ne suis jamais allé. C'est un circuit qui est assez rare dans les championnats.
On roule dans l'autre sens.
Ouais, on tourne à l'envers,
ouais.
Par rapport à l'habitude. C'est très 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 vallonné. Un tourniquet, c'est les montagnes russes là-bas. Donc bon, j'en avais entendu parler. Et puis comme cette année il était au calendrier, j'ai sauté dessus tout de suite. Et puis après donc les découvertes, c'était le circuit d'Anglesey au Pays de Galles.
Ouais, devant la mer.
Ouais.
Magnifique.
Magnifique. C'est
ouais.
Sur une île qui est en ouais. face du Pays de Galles, et donc on a au fond les montagnes du Pays de Galles, la mer entre les deux.
Oh, wow.
Le circuit qui est vraiment en bord de mer. Allez, à 200 mètres, c'est
on les rochers. Ouais, non, en Australie.
Il doit y avoir pas mal de mouettes et tout.
Alors, fais gaffe aux mouettes.
mais rassure-moi, ce championnat a du succès auprès des pilotes parce que...
Cette année, c'est un peu difficile. Au niveau des grilles, c'est un peu la misère. L'année dernière, il y avait du monde encore. Et puis cette année, là, il y a un grand trou de fréquentation. Beaucoup de gens qui sont changés de catégorie pour aller vers les catégories qu'on appelle évolution, donc les motos un petit peu plus modernes des années 90, des 400 VFR, des Kawasaki 400 ZXR. Donc il y a un championnat pour ces motos-là. Et donc beaucoup ont délaissé leurs vieilles anglaises au profit de ces machines-là pour voir autre chose et s'amuser, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas encore de renouvellement dans les catégories classiques et vintage, donc les vieilles machines d'avant 70, enfin, au plus moderne des années 70. Ouais. Et donc, c'est un petit peu creux cette année. Bon, on espère que ça reprenne et puis qu'il y ait de nouveau des gens qui s'y mettent. Hein. Bon, il y a quand même un petit renouvellement, mais pas encore assez pour remplir les grilles.
Ça coûte cher de rouler avec des vraies anglaises.
On va l'aborder, en fait, parce que justement, quand on pourrait inciter les personnes qui s'y intéresseraient ou justement donner une idée de ce que ça peut coûter, on va se retrouver après un petit morceau de musique pour que tu nous parles de tout ça.
Oui. Hein.
Patrick, ça c'est autre chose que la moto ancienne, hein, pourtant là, il y en a maintenant.
Ah, il y en a maintenant.
Il y a la moto en régime.
Il y en a maintenant des motos anciennes modernes.
Modernes.
Il y a des catégories pour.
Bon, donc on continue à parler de ce fameux championnat VMA, pour lequel la com est quand même un petit peu difficile, parce que il faut repérer, hein, quand par exemple ça se passe à Croix-en-Ternois. J'ai vu une affiche passer, sinon il n'y avait pas eu particulièrement d'infos concernant les trois jours, parce que ça commence le vendredi.
Ouais, bah c'est peut-être aussi un fait de l'appauvrissement du plateau. C'est que moi je trouve que la FFM en tant que fédération, au sens étymologique du terme, joue pas son rôle, parce que elle soutient pas tellement le championnat. Il y a pas de communication, et puis on vivote, mais d'après les gens qui sont curieux et qui arrivent à trouver l'information, mais il y a pas de communication. Même sur les courses, c'est pas signalé qu'il y a une course de moto ancienne. Le championnat moto ancienne, bon, à part au salon, on en entend jamais parler. Et bon, moi je pensais que le mot fédération, ça voulait dire ça, quoi, de porter un peu ses membres, de communiquer, de faire vivre toute la partie, je vais dire, non technique des courses.
Et c'est même plus dans le calendrier de Kikinko.
Ouais, en plus, alors là
c'est vraiment
tout
zéro,
camp, hein.
Là, tout fou le camp, là.
Mais justement, pour tu assures la survie de participation, ta survie de ce type d'épreuve. Vous êtes à peu près combien par course?
Normalement, on est environ une vingtaine. Mais là, cette année, il y a une vingtaine d'inscrits par catégorie, effectivement, peut-être. Mais une vingtaine de personnes qui ne font pas l'intégralité du championnat, parce que, bon, malgré tout, ça coûte des sous.
Voilà.
Et puis, on n'en retire rien d'autre que du plaisir. Donc, les gens trient un peu en fonction de leur vie privée, ce qu'ils ont envie de faire et de jusqu'où ils veulent investir dans le championnat. Donc,
mais globalement, il faut compter une enveloppe à peu près de combien pour pouvoir...
J'ai regardé là à peu près en frais fixes, donc hors coût moto, hors accident mécanique ou corporel, c'est environ 6 000 euros. Les gros budgets, c'est les inscriptions, la licence et les déplacements surtout.
Bien sûr, vu les kilomètres que tu dois faire pour te rendre sur les différents circuits.
Et l'année passée, tu es monté sur la première marche, tu as gagné ce fameux championnat.
Ouais.
Et ça touche combien un champion du monde français qui monte sur la première marche du championnat de l'Ancienne? Le gros chèque.
C'est totalement honorifique.
Une paire de gants.
Une coupe sérigraphiée. Non, même pas. Une coupe sérigraphiée sur un petit bloc de granit avec une gravure.
Un petit chèque, je sais pas moi.
D'ailleurs, la gravure.
5 000 euros, je sais, pour. Non.
La première année, on avait eu les coupes non gravées parce que la FFM n'avait pas eu le temps de les graver. Tu sais, ils ont dû être pris par surprise comme ça. Oh mince, c'est déjà la fin de saison, les coupes sont pas gravés. Vous nous excuserez, elles ne sont pas gravées.
Donc pas de chèque, rien du tout.
Non, rien du tout. Okay. Les chèques, c'est nous qui les donnons.
Oh, d'accord.
À l'étranger, toi qui as roulé en Angleterre, est-ce que c'est un championnat qui est plus investi?
Ah, complètement. C'est une autre planète. C'est vraiment la sortie du dimanche pour le public. Donc il y a du public déjà, il y a une communication qui est faite sans arrêt, parce que c'est culturel chez eux. Donc les courses, il y a toujours eu, ils sont accros à ça, ils aiment bien. Et puis au niveau du plateau, forcément, s'il y a du public, s'il y a de l'animation, ça vit. Il y a encore des constructeurs là-bas, donc ils jouent le championnat, comme Nico disait tout à l'heure à propos du bouquin, ils jouent le championnat pour se faire connaître, pour montrer que leurs machines sont devant. Et puis c'est des machines à 30, 40 000 livres. Donc c'est vraiment à fond, quoi. C'est des motos d'usine, sauf que les usines aujourd'hui, c'est des privés qui ont une équipe de peut-être 3 à 4 personnes qui bossent sur les motos, et puis voilà.
Donc en France, c'est totalement confidentiel.
Oui, et puis ça le reste, c'est ça qui est embêtant, quoi.
Il y a trop d'épreuves.
Alors, il y a beaucoup d'épreuves, c'est vrai qu'un championnat de 10 courses, ça fait 10 fois les frais, c'est sûr. Mais ils ont eu, ils sont passés de 8 à 10 courses parce que ça avait l'air d'intéresser les gens et puis de grossir un peu le championnat. Bon, le problème, c'est que ça a augmenté les frais et du coup, ils ont eu l'effet inverse au niveau fréquentation.
Parce qu'on a l'impression qu'ils augmentent le nombre de zones géographiques en se disant les gens qui sont autour, ils vont venir. Donc ça remplit leur paddock. Mais personne n'est capable de faire l'ensemble des 10 courses après.
Bah oui, c'est quand même lourd en investissement, en temps, en congé aussi, parce qu'accessoirement, faut penser à prendre des congés. Donc, faut pouvoir. Tout le monde ne peut pas forcément avoir les congés comme il veut, quand il veut. Et puis... Donc, à chaque fois, un week-end de course, bah, c'est le jeudi, vendredi en congé, forcément. Le jeudi, on fait la route pour descendre. Enfin, je dis descendre parce que nous, on ne peut que descendre. Mais donc, le jeudi, on fait la route pour descendre. Le vendredi, c'est les essais libres. Samedi, les qualifs et une course. Et puis dimanche, une deuxième course. Donc après, les courses sont réparties entre le samedi et le dimanche.
Et lundi pour remonter.
Et alors, voilà, quand c'est loin, c'est le lundi pour remonter.
Bon, pour terminer, Nounours.
Et quand c'est pas loin, ben, juste on se couche tard.
Rien que pour donner envie, parce que là, on va voir plutôt les inconvénients et la difficulté vraiment à pouvoir être pilote de... Bah. Mais là, qu'est-ce qui peut motiver? Parce qu'il doit y avoir quand même quelque chose de génial si tu
bah oui,
ça fait
bah
trois
oui,
années
bah
de suite que tu le
bah
fais.
Bah oui. Bon, alors, déjà, bah, c'est la moto ancienne avec l'attrait que ça a.
La passion.
La passion. Si on est un peu mécanicien, on se fait aussi plaisir pendant ce temps-là. Et puis l'ambiance là-bas, quoi. C'est vraiment les paddocks. Avec une entraide, une camaraderie.
Et totalement ouvert, c'est-à-dire que même.
Ah ben on est en panne, il manque le pignon qui va bien, on fait le tour du paddock, voilà. On trouve un pignon forcément en prêt et puis on roule, quoi.
C'est ça, je pense qu'il faut qu'on termine sur cette note-là. Hein.
Ouais, ouais, c'est une super ambiance, une très bonne camaraderie, c'est un championnat.
Et un beau
familial,
spectacle,
hein,
des belles machines qu'on voit pas souvent,
ouais,
donc les spectateurs, c'est pareil. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai.
C'est super. Vrai.
Let's go ride.
Voilà, c'est le 90 minutes, c'est le magazine de la moto, c'est le dimanche, de 11h à 12h30. Voilà, on change de sujet. Merci
ah oui,
de nous
carrément.
Avoir. Bah oui, carrément.
Oui. Papa, mais tiens, alors, pas là, totalement, parce qu'on va quand même continuer à parler d'anciennes.
Vas-y.
Alors oui, on va quitter par contre les circuits, la compétition, pour, espérons-le, une sortie, disons une envie de sortie, de petite balade d'automne, mais une virée entre potes. Hein. On peut même y aller en reconnaissance pour un futur déplacement pour les beaux jours. C'est le garage café d'Ouve-Huirquin et Kléber.
Il faut venir où c'est, ce truc-là.
Oui, bah donc, Kléber, il y est. Bonjour Kléber.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, merci d'être à l'antenne pour nous parler de ton établissement, donc le garage café.
Ouais.
Alors, le concept.
Ah bah, écoute, le concept ici, c'est que c'est un bar qui est complètement dédié à tout ce qui roule, en fait, hein, les bagnoles, les bécanes. Plus, pour mon goût à moi, plus c'est ancien, mieux c'est. D'ailleurs, quand ils ont organisé la balade à Guy, là, avec des toupales, on a vu quelques belles machines, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la page Facebook, parce que j'ai fait quelques photos, bien sûr, j'aurai jamais eu une occasion. Et puis, bah, ici, écoute, c'est un lieu de rencontre où c'est tout des passionnés, que ce soit, je te dis, de moto, de voiture, de véhicules militaires, tout ce qu'il y a, des roues et un moteur, en fait. Voilà le thème du bar.
Voilà, donc un cadre particulier où les machines sont mises à l'honneur.
Absolument.
Et une ambiance vraiment où il y a la musique, parce que il y a des concerts.
Il y a des concerts, absolument. Il y a eu Cadillac là.
Le bien nommé.
Le samedi dernier. Bien nommé, très bien nommé, ouais.
Voilà, la bonne bouffe, parce que c'est sur réservation, Kléber.
Écoute, tu peux manger tous les jours des tartines gratinées. Il y a plusieurs recettes de tartines, tu sais, un peu estaminées. Et puis sinon, sur réservation, pour des groupes, on peut faire d'autres menus. Il suffit de me contacter et puis on met ça en place. Je fais ça très souvent, il n'y a pas de problème.
Alors, rien que sur les trois semaines, hein, si on prend la semaine dernière, c'était le concert. Ouais. Cette semaine, c'était le cassoulet qui a eu du succès, Cassoulet Maison.
Ah oui, un gros succès. Ouais.
Alors, il faut le dire aussi à des prix qui sont hyper accessibles, parce que tu proposes le repas complet, le plat avec le dessert pour 12 euros.
Là, le cassoulet, c'était ça, c'était 12 euros. Ouais. Hier après-midi, j'ai aussi eu, je sais pas si tu as vu sur la page Facebook, il y a MG qui fêtait les 50 ans de la MGB.
Et tu avais 50
ans. Ouais, en fait, ils ont été 30. Ils devaient être 50, mais comme il ne faisait pas aussi beau que prévu, en fait, ils ont eu 30 voitures.
Qui ont 30 fait, MG.
Ici, ouais, 30 MG. De tout, il y avait même une C que j'ai aussi pris en photo. C'est parce qu'on n'en voit vraiment pas souvent. Et puis bah, ils ont fait une halte ici, sympa. Ils sont restés une heure et demie. Et puis ensuite j'ai enchaîné sur le cassoulet, qui a eu, comme je te disais, un gros succès. Il y avait une super ambiance. Il y a un pote là qui a sorti sa cornemuse et qui nous a fait quelques morceaux de cornemuse.
Et samedi prochain, ça sera Halloween.
Halloween.
Voilà.
Ouais, absolument.
Donc, ce qui est génial, c'est que tu as toujours des idées, parce que même tu veux pas jeter, alors tu...
Voilà.
Il y a des repas qui sont offerts en cadeau.
Voilà. Bah, pour le dernier concert, pour le concert de Cadillac, j'avais prévu des faluches, et j'en avais prévu beaucoup. Et donc, à la fin, au lieu de jeter, j'ai mis un message sur Facebook en disant que voilà... Moi, on m'a toujours appris à ne pas gaspiller, donc ce soir, j'offre autant de faluches au poulet et autant de faluches bolognaises. Voilà, comme ça, pas de gaspillage, et puis en plus, ça fait plaisir aux clients.
Tu donnes à manger aux flics.
Tu offres des faluches au poulet, moi, je ne l'aurais pas fait. Hein.
Tu sais, les poulets, c'est des motards aussi. Hein,
donc, ouais. Mais, y a donc une grosse clientèle de motards de tout âge, je disais. Hein,
ouais.
Qui se mélange à des collectionneurs de motos anciennes. Et
ouais,
voilà.
Ouais.
Et donc un lieu de rencontre, super dynamique. Ouais. Pour aller y faire un tour, en plus, c'est vraiment très très bien situé, parce que pour ceux qui aiment les petites routes, les itinéraires sympas, on peut pas mieux rêver.
Ah non, c'est génial. C'est la chaussée Bruno, là, tu sais, une des plus vieilles routes de France. Et en fait, de Saint-Omer jusqu'à sur la côte là-bas, sur Berck, le Touquet. Tu peux faire le trajet sur les petites routes de campagne. Et c'est vraiment génial. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, il fait beau. Donc je m'attends cet après-midi à avoir quelques bandes de motards qui vont s'arrêter boire une bière. Et puis pour rien te cacher, là c'est encore un peu le chantier, parce qu'hier soir je suis parti, j'ai un peu tout laissé en vrac. Donc j'ai un petit peu de boulot avant qu'il arrive cet après-midi.
Bah écoute, en tous les cas, on invite tous nos auditeurs à aller voir sur la page Facebook. Donc c'est au Garage Café d'Ouve-Verquin.
Garage Café Ouve-Verquin. Ouais.
Voilà. Et puis pour se décider à se déplacer, et puis on aura je suis sûr, on aura le bonheur d'en reparler et avec des passages de motos anciennes et il y aura des tas de choses qui vont pouvoir se faire, parce que au niveau accueil, à chaleur humaine, ben je pense que les gens vont vraiment se régaler. À bientôt, Kléber.
Ouais, à bientôt, merci.
Au revoir. Allez.
Patricia, là, on quitte réellement la moto ancienne, et puis parce qu'on va faire un peu c'est la rencontre aujourd'hui. On va découvrir un motoclub.
Voilà. voilà, c'est une nouvelle rubrique. En fait, on vous invite à nous contacter et à, si vous en avez envie, comme le MC Feu Follet qui a accepté notre invitation, si vous avez envie de participer à l'émission, de vous faire connaître, eh bien, vous nous joignez sur les différentes adresses qu'il y a possibles, qu'il y a dans le calendrier. Donc là, aujourd'hui, honneur au motoclub Feu Follet de Honnain. Alors, Honnain, ça se situe
Au-dessus de Valenciennes.
Au-dessus de Valenciennes. Et donc, on peut dire que vous êtes une nouvelle équipe. Ça fait à peu près combien de temps que...
En fait, c'est un club qui a été fondé en 2003, mais qu'effectivement, on a remasterisé une équipe complète depuis un an maintenant.
Et en un an, vous ne chômez pas, vous organisez beaucoup de choses.
On essaye en tout cas d'avancer le mieux possible.
Et donc, comme équipe, vous vous sentez complètement à même d'accueillir un grand nombre de personnes? Vous voulez plutôt que ça reste amical? Comment on peut faire si on a envie de vous rejoindre ou de savoir si vous connaître? Comment peut-on faire? Vous avez...
Il y a un Facebook déjà, il y a la page Facebook, on a le groupe, il y a la communication avec la mairie d'Honnain qui nous fait pas mal aussi pour nous du
c'est
fait qu'on
ait
démarré.
Oui, effectivement, voilà. C'est très très bien fait.
Et on arrive à nous joindre. Alors après, la page Facebook MC Feu Follet, ça se trouve assez facilement. Après il y a les mails, on a la boîte, on a tout ce qu'il faut pour nous joindre. Maintenant, si on est ici aujourd'hui, effectivement, c'est certainement aussi pour se faire connaître le mieux possible.
Tout à fait.
On est au bon endroit.
Et donc là, vous avez organisé une balade en mai.
C'est ça.
Vous êtes de sortie assez régulière.
Ouais.
Et vous avez organisé aussi pour la fin du mois un temps convivial et qui va être super sympa, c'est un concours de belote.
C'est ça, c'est le concours de belote.
Vous lâchez le guidon.
C'est ça. C'est complètement différent de la moto, mais effectivement, c'est quand même sympa de pouvoir se retrouver, faire des concours de belote.
Et vous avez, disons que là, vous avez aussi l'expérience d'un autre club, le Vauban.
C'est ça, oui. On fait certaines choses avec eux. On fait des balades avec eux, ils font des balades avec nous, on s'entraide, quoi, en fait. Hein.
Et qui sont aussi très, très actifs, hein,
très
engagés.
Très actifs, ouais.
On va pouvoir parler de la journée qu'ils vont proposer le 8 novembre. Ils seront présents aussi le 31, c'est ce qu'a dit la secrétaire. Ils seront présents chez vous pour aussi vous rendre, j'irais, la politesse et l'amitié,
hein,
vous leur témoignez. Et donc, ce concours de belote, on donne le rendez-vous, c'est
le soir d'Halloween, le 31, et c'est donc les inscriptions à partir de 18h, départ des jeux à partir de 19h. Nombreux lots, en fait, il y aura peut-être pas des lots pour tout le monde, bien sûr, mais enfin, il y aura des beaux lots à gagner. Donc on invite tout le monde, le plus de monde, à pouvoir y participer.
Et alors, au guidon, vous avez quoi comme projet?
Comme projet, c'est-à-dire
par rapport à l'an prochain,
alors on a déjà ici vraiment pour la fin de l'année, la première sortie qu'on a, ça va être la balade des Pères Noël.
Il y a
pour Noël.
D'accord.
Du fait que effectivement avec la mairie, on fait également le marché de Noël, et ben ce jour-là, effectivement, on fait la balade des Pères Noël. Et après, on redémarrera la saison avec les premières balades en mars. La balade propre au club, et après bon, beaucoup de balades qu'on fait effectivement avec d'autres clubs de l'arrondissement.
On aura le plaisir de relayer toutes ces infos là,
voilà.
Et puis on va le rappeler aussi pour tous les motoclubs, associations motardes, les annonces dans le calendrier 2016 sont gratuites, donc si vous voulez nous donner vos dates, un petit texte, voir votre logo s'il y a moyen aussi de mettre tout ça, et bien nous on sera vraiment très très heureux de pouvoir informer les motards de la région et d'ailleurs de tout ce qui peut se faire.
D'accord.
Donc une petite pause de musique et puis on embraye parce qu'on va faire de la pub quand même au Le Quénois. Ce qui va se passer, ça sera pas à Le Quénois, mais c'est le Vauban Moto Club et donc on en parle juste tout à l'heure.
Into the night. Let's
Le Mac de la moto, c'est sur Campus, c'est le dimanche de 11 à 12h30. Quelques petites infos, motoclub, informations de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Christine ?
Eh bien, écoutez, moi je vous propose le 31 octobre, avant d'aller donc au concours de belote au motoclub de Feu Follet, de passer au salon de Comines, qui est donc un salon qui est organisé autour de la moto de compétition. Donc voilà, avant d'aller faire votre petite belote.
Donc Ikaku est partenaire.
Voilà, donc Ikaku est partenaire, effectivement. Et donc sinon, ben, au mois de novembre, hein, donc on retrouve le 7 et 8 novembre, comme vous l'avez annoncé, donc à Roselaire. Et puis le 14 et 15 novembre, le Supercross de Paris. Donc on aura...
Mais à Lille.
Voilà, mais à Lille, voilà, exactement, au stade Pierre Moreau à Lille. Du 20 au 22 novembre, on a le Salon Moto Légende, donc à Vincennes. Et le 21 novembre, la soirée couscous. Donc, je vous propose aussi d'aller le samedi, vous passez la journée donc, à Moto Légende, et vous revenez au couscous.
Voilà, qui va se passer où ?
À Gondecourt.
Très bien.
Le couscous de Kikaku, parce que je n'ai pas de...
et on continue alors avec Laurent et Damien pour parler de l'activité du MC Feu Follet. Le MC Feu Follet donc, qui est à Honnain, et dans un ensemble de communes qui est très très dynamique en activité moto. Il y a beaucoup de motoclubs quand même qui s'engagent, parce que vos amis du VPMC. C'est alors ça. Vas-y Laurent, dis-moi, traduis.
VPMC, Vauban Passion Motoclub.
Voilà.
Des gens formidables qu'on côtoie depuis quelques années déjà, malgré la réouverture du club de chez nous qui a qu'un an, mais on se côtoie depuis pas mal d'années.
Donc le 10 octobre dernier, eux aussi organisaient un concours de belote où vous étiez présents. Il y avait du monde.
Il y avait du monde, oui. Malheureusement, nous, on n'a pas pu vraiment y aller. On avait aussi quelque chose d'organisé de notre côté. On n'a pas pu y participer, malheureusement.
Mais ça a été un succès. Et là, ils continuent. Donc, ils s'associent à Guissigny, en fait, parce qu'il y a c'est l'occasion de fédérer plein de communes dans cette action du Quercyton, c'est-à-dire le Téléthon au pays quercitain.
C'est
toutes ces communes. Là, ça sera Guissigny. ouais. Hein, qui va se mobiliser à fond. Au départ, il y avait peu de assez peu de communes qui étaient qui ont démarré, 7 je crois disait ouais. La secrétaire du VPMC Sophie, ensuite une quinzaine et maintenant ils sont plus d'une vingtaine et apparemment ça fédère donc tout un lieu géographique et des communes qui participent pour faire exploser le record du Téléthon qui l'an dernier était de plus de 32 000 euros et donc ils espèrent continuer. Donc là ça sera le 8 novembre, vous y serez à Guissigny.
On y sera par contre.
Il y a toute une journée et le VPMC propose, Laurent, je ne sais pas si tu peux donner des précisions.
C'est Damien qui va donner les précisions.
Ah oui, c'est Damien aussi. Oui, oui. Et donc sur la balade, là, tu vas y participer à cette balade de 70 km sans pause que va encadrer le VPMC. Il y aura une vingtaine de motards pour assurer la sécurité. Et donc, ça va être un des points forts de la journée. Donc, cette balade dans la matinée organisée par le VPMC au départ de Guissigny.
Ouais, c'est ça. Tous les ans, on le fait.
Tous les ans, ben voilà. Et donc, soyez nombreux à rejoindre Laurent. Il y a peut-être une occasion aussi d'échanger par rapport au motoclub, hein, Feu Follet.
Oui.
Et puis, on aura le plaisir donc, de pouvoir parler de tout ce que vous organiserez. Et on vous souhaite qu'il y ait des motards qui aient eu envie, en vous écoutant, de vous contacter.
Très bien.
Yeah.
Bon, Christine, tu connais Luc Cotterelle, hein?
Ah oui, je connais très très bien.
Alors,
Luc Cotterelle.
Alors, Luc Cotterelle, allez, dis-nous un peu.
Ah bah, écoutez, ça a été vraiment... j'étais ravie de le rencontrer. Un voyage exceptionnel qu'il nous a raconté ici à la radio et qui aujourd'hui eh bien, va voilà. continuer
Alors,
nous raconter.
Lui qui rentrait mi-septembre 2014, c'est pas, bah, finalement c'est pas très longtemps quand même. Hein.
Un tout petit peu plus d'un an.
Ouais. Ah, un petit peu d'un an. Bah, finalement, c'est le temps qu'il faut, c'est qui est nécessaire hein, pour se remettre un petit peu de cette grande aventure en Afrique. Là,
j'ai pas la prétention d'avoir encore vraiment atterri.
voilà, c'est ça. Donc après avoir passé 31 mois, avoir parcouru 37 300 km, c'est précis, tu vois, très précis, sur les routes de l'Afrique et tout ça en moto avec une BMW 1150 GS,
ouais, GS. Un modèle de base, même pas de
modèle de base, ouais. Modifié hein, pour l'occasion,
africanisé,
avec un gros réservoir de 150 litres pour pouvoir faire
hors-taxe.
Alors dis-nous un petit peu comment ça se passe le retour, je vais pas dire la vie civilisée, mais en Europe, enfin après avoir passé en Afrique,
il a fallu retourner au charbon.
Il faut préciser quand même qu'avant tu avais une société.
J'étais indépendant dans la maîtrise d'œuvre en maison individuelle. Ça, par contre, j'ai complètement arrêté. Quand je suis parti, je voulais laisser tous les possibles devant moi et je voulais vraiment. Je savais qu'il allait avoir le avant et le après.
En gros, t'en avais marre
un peu,
parce qu'il faut respecter les délais. Quand tu construis des baraques, tout le monde veut avoir sa baraque le plus possible.
J'étais indépendant, je comptais pas trop mes heures. Et,
Ouais. Et tu dévis. C'est ça, c'est pas la vie.
Ça, c'est pas la vie.
Non, faut faire autre chose. Donc, t'as décidé
d'arrêter. J'ai décidé de partir en laissant tous les possibles. C'est-à-dire, j'ai quasiment tout vendu. Dans ma tête, au départ, c'était 6-8 mois. Je suis rentré 2 ans et demi après. Dans ma tête, au départ aussi, c'était un break pour réfléchir justement à ce que j'allais faire après. Et aujourd'hui, 3 ans et demi passés après être parti, j'ai pas encore réfléchi. Mais je me suis mis en mode, je cherche pas trop à savoir, j'arrive pas trop à anticiper sur, et justement à programmer sur ce qui va se passer.
Voilà, quand t'es rentré d'Afrique, t'étais chômeur, t'as plus de boîte.
Voilà, à peine un mois après être rentré,
t'as bouffé tout le pactole parce que t'as tout vendu, hein, ta bagnole, tout. Ouais, t'avais 3 motos, t'as tout vendu parce qu'il te fallait de l'argent, t'avais prévu de l'argent pour faire. Au début c'est 8 mois et puis finalement t'es resté 2 ans et demi. Donc là t'es rentré sans un sou.
Un mois et demi après, je retrouvais du travail.
Mais t'as retrouvé du boulot et tu.
CDD sur un chantier, comme manœuvre sur un chantier, donc ce qui m'a permis de rouvrir des droits, j'ai plus de sécurité sociale.
Ah oui, en plus, c'est ça, en plus. Oui.
Et depuis, là, je me suis relancé dans une activité moto.
Alors, toujours en moto.
Toujours en moto. Donc
alors, ça, c'est une nouvelle activité, en fait, qui existe depuis. Parce qu'avant, c'était les flics qui faisaient ça.
Ouais, c'est ça, en fait.
Et maintenant, ce sont des sociétés privées, en fait.
Il y a 4 ou 5 ans, Sarkozy avait décrété qu'au vu de l'insécurité qu'il y avait en France, les forces de l'ordre avaient mieux à faire que d'escorter des camions.
Voilà.
Et donc, ça a été.
Des
convois exceptionnels, ouais. Donc ça a été privatisé, c'est des motos jaunes.
Des motos jaunes, oui.
Voilà,
oui,
gyrophares, Sibylle. Donc l'avantage, c'est que c'est une profession qui me remet un peu sur la route. Et comme des fois, c'est des convois qui durent plusieurs. Comme là, je suis revenu d'un convoi qui a duré 5 jours entre Reims et Marseille, Aix-en-Provence. Donc on est sur la route,
c'est
on dort à l'hôtel.
Comme boulot,
c'est pas un métier facile.
C'est par tous les temps.
C'est pas un métier facile, c'est par tous les temps. C'est souvent de nuit. Il y a des approches à faire qui sont des départs qui sont un peu loin, des retours. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a tellement de réglementations que finalement, des fois, on arrive à se mélanger les pinceaux. Entre les réglementations liées aux traversées de villes nocturnes, au fait qu'on puisse emprunter telle et telle route seulement à tel moment, etc.
Et tous les gens qui travaillent dans cette discipline, ils viennent de tous de la moto, ils viennent d'où?
Ils viennent tous de la moto, 80%.
C'est des anciens flics qui sont à la retraite.
Voilà, qui ont
qui font un petit plus, un petit plus, c'était un groupe,
voilà. Tout à fait. Mais bon, qui ont le bon côté d'avoir l'expérience et d'apprendre aux civils qui se lancent dans la profession le métier.
Très bien. Donc on revient un petit peu donc au projet, hein, parce que pendant ces 2 ans et demi, tu as pris des photos, hein, tu as filmé, et donc tu as décidé de réaliser un film documentaire.
Mmh, tout à fait.
Pour réaliser ce film, il faut 8000 euros.
Ouais, c'est un montant approximatif parce que en fin de compte, moi, il y a un très gros travail au niveau du montage, dans la mesure où je suis pas caméraman professionnel, je suis parti avec du matériel. Bon, maintenant, c'est vrai que les GoPro, etc., on fait du full HD maintenant quasi avec le matériel qu'on trouve dans le commerce. Et du coup, au niveau qualitatif de l'image, c'est relativement correct. Par contre, au niveau caméraman, c'est pas. Surtout que j'étais pas parti dans le but de faire un film.
Disons que t'as des images en vrac.
J'ai des images
en vrac. Et il faut tout placer. faire des enchaînements corrects.
Voilà, il faut faire des enchaînements.
Avec du son aussi.
Voilà, un scénario, ouais. Une histoire, raconter quelque chose, inciter éventuellement le questionnement. Et voilà, il faut
voilà, faire donc, quelque chose ça, qui intéresse. C'est cette histoire de 8000 euros, ça a commencé quand? Il y a deux mois, trois mois que tu as lancé l'impôt?
Ça a commencé il y a un mois et demi, je suis déjà à 80%. Alors le principe du crowdfunding, quelle que soit la marque, là, en l'occurrence, bon, je cite, là, c'est My Major Company, il y en a d'autres. Hein. Le principe du crowdfunding, en fait, c'est d'avoir un projet, de cibler un budget pour réaliser ce projet, mais de préciser ce qu'on fera au cas où le budget, enfin la jauge dépasserait le budget prévu. C'est-à-dire que là, en première partie, j'annonce le projet de réaliser un film, et tout ce qui va dépasser la jauge servira à la réalisation d'un livre.
D'accord, très bien.
Et si on veut t'aider, alors comment on fait ?
Eh ben, il faut se connecter simplement sur www.mymajorcompany et là taper Terre Propice qui est le titre de mon
Terre Propice.
Terre Propice
voilà. Du projet.
Donc il te reste combien ? 2000 euros à trouver.
Ouais,
trouver
hein. Il doit rester 1500,
2000
euros.
Bon, ouais, ça va
pour,
le faire.
Pour la première étape, ouais, film, ouais, et après tout ce qui arrive, ce sera pour le.
Et puis
il n'y
a pas que ça. Depuis un petit moment, on te voit partout. On a un super article dans Motomag. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a aussi un journaliste qui est avec nous, Carlos. Carlo, bonjour.
Bonjour.
Donc effectivement, tu t'es intéressé à l'histoire de Luc.
Oui.
Parce que tu travailles, enfin t'es le seul salarié dans une revue qui s'appelle Try Adventure.
Adventure,
voilà,
oui.
Adventure. Tu trouves que son aventure est très, alors originale, bah oui, forcément, mais aussi un peu fantastique aussi.
Elle est intéressante.
Intéressante.
Le personnage est intéressant aussi.
Voilà. Donc cette revue, c'est un trimestriel ?
C'est un trimestriel qui s'intéresse aux trails de voyage, on va dire.
Et des aventuriers un peu comme Luc ou des gens qui partent en vacances et qui font un petit truc comme ça
On s'intéresse
on peut imaginer en Grèce par exemple.
Voilà. Oui, aussi ou ouais, même, ouais. Même en France, en Belgique, en France, où on veut. Voilà. Non, ce qui nous intéresse, c'est le trail dans sa polyvalence. Alors, ça représente une vingtaine de motos sur le marché, ça ne représente pas grand-chose. Mais ça, c'est intéressant, je trouve.
C'est un peu une niche un peu dans le monde de la moto.
Complètement.
C'est une niche, mais en même temps, c'est le modèle de moto le plus vendu dans les gros cylindrés.
Oui, mais très peu d'utilisateurs les utilisent
à bon escient.
En aventure.
Comme des machines polyvalentes.
Exactement.
C'est les routières. Et puis, ouais. c'est surtout, en fait, c'est surtout des R1200 GS qui se vendent.
Oui.
Hein, les autres sont loin derrière. Et les R1200 GS, c'est un peu une moto statutaire.
Oui, c'est ça.
Voilà, et on s'achète un statut souvent, mais il y a quand même des passionnés qui voyagent, qui voilà.
Et qui mettent leurs pneus dans la terre.
Ouais, un petit peu.
Oui, parce que le modèle le plus vendu de chez BEM, c'est quoi ? C'est cette fameuse BEM.
C'est celle-là.
C'est la
moto la plus vendue en Europe et certainement.
On les voit toutes propres dans les villes, dans les centres des villes. On les voit pas comme celle de Luc.
Cosmétisées. Je les appelle cosmétisées.
Ah ouais, voilà.
C'est un peu comme les 4x4.
Hein. Ouais, donc, ça fait rêver, mais
en fait, Luc fait rêver ces gens-là qui achètent le trail pour pouvoir peut-être un jour, peut-être. Il se dit, tiens, pourquoi pas. Ouais. J'ai la moto déjà, je l'ai achetée, donc après tout, voilà.
Mais en même temps, les gens qui s'achètent ces motos-là n'ont pas forcément l'expérience de l'off-road, et c'est peut-être pour ça qu'ils hésitent aussi à les utiliser en dehors.
Est-ce que Luc, ça t'a fait connaître un petit peu ? On parle de toi un peu. Là, on a cité Motomag, maintenant un nouvel article dans.
Oui, tout a commencé avec Kikinkou, parce que en fait, quand je suis arrivé, les premiers qui m'ont invité, c'est vous, et vous m'avez invité sur le salon de Pécancourt, et puis de là, il y a des journalistes qui passent, alors il y avait un journaliste de LVM, et puis ça commence comme ça, et puis la mayonnaise, elle prend, et puis
et voilà.
Mais ça a commencé avec Kikinkou.
Et ça marche, écoute, impeccable.
Voilà, merci Kikinkou.
Bon, voilà, l'émission se termine, merci d'être venu aujourd'hui. On va terminer, parce que c'est l'actu aujourd'hui. C'était
le Grand Prix.
Le Grand Prix à Sepang.
Oui.
Alors on va. Il s'est passé quelque chose de.
La tension de
grave, je crois.
Oui, la tension grave. Est énorme, c'est puisqu'en grave. Fait, il y a la bagarre entre Rossi qui a quelques points d'avance sur Lorenzo. Lorenzo qui est plus en forme en ce moment. Donc la tension est énorme. Et là-dedans, il y a Marquez qui est venu un peu jouer les troubles faits. Et Rossi, il le montrait énergiquement.
Ouais. Oui,
en conférence de presse, il a pris position.
Alors en gros,
et sur la piste, il s'est expliqué.
Au quatrième tour, Rossi pratiquement a fermé la porte. Mais alors, vraiment, on voit que manifestement, il ferme la porte. Et puis. Marquez qui voulait passer un peu têtu quand même a voulu donc passer Rossi et Rossi lui a donné un coup de genou Alors, ça l'a déséquilibré et Marquez est tombé, s'est retrouvé dans le bac à sable.
Ouais, mais voilà. Bon, Marquez avait bien cherché. Mais il a bien perturbé le jeu.
On ne sait pas ce qui
se passe. Il doublait, il ralentissait.
Il doit avoir un truc entre les Espagnols et les. Voilà. Oui, ben Laurent, d'accord, je termine. Voilà, merci. Merci, Fafa, d'être venu, Patricia. Merci. Au mois prochain. Christine, c'était fantastique les annonces. Hein. Voilà. Luc, bonne continuation, ouais, bonne
merci,
chance hein, pour merci, la, encore. Merci. C'est pas fini encore ton histoire.
C'est pas fini, c'est une aventure. Non.
Merci Kalos, c'est pour d'être venu aujourd'hui faire des photos et l'article aussi pour Luc. Merci.
Il y a pas de problème.
Nico, excellent le bouquin. Hein.
Bonne lecture.
J'essaie de le lire.
Les longues arrêts d'hiver.
Et on termine avec
Laurent qui dit allez salut maintenant.